Bonjour Paul Raoult. C'est un peu l'épreuve de force ou l'épreuve de vérité aujourd'hui pour la réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem. 5 syndicats d'enseignants sur 7 appellent à la grève et à manifester aujourd'hui contre le projet. La réforme du collège a de nombreux détracteurs, on les a beaucoup entendus au cours de ces dernières semaines, mais elle a aussi quelques soutiens et vous êtes de cela. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce texte? Au fond, tout ce qui déplaît à ses adversaires?
Non, je pense pas que ce soit comme ça. Déjà, quelques soutiens, je pense que c'est un assez grand nombre de soutiens. Je rappelle qu'au CSE, cette réforme a été votée 51 voix pour et seulement 25 contre. Et le CSE représente l'ensemble de la communauté éducative.
Le CSE, c'est le Conseil supérieur de l'éducation.
Tout à fait, oui.
Mais alors, vous, qu'est-ce qui vous plaît dans ce texte?
Alors, déjà, ce qui nous plaît, ce texte reprend beaucoup des points que l'on réclame depuis plusieurs années par rapport à permettre à plus d'élèves de réussir. Aujourd'hui, le collège, je crois qu'on est tous d'accord sur ce constat, ne fonctionne pas bien. 140 000 élèves qui quittent le système scolaire sans projet, sans qualification, sans rien. Des élèves qui s'ennuient, et des orientations non choisies. Tout ça, il faut arrêter. Il faut permettre aux élèves d'être vraiment acteurs de leur formation. Et pour ça, il faut adapter d'autres moyens de travailler. L'hétérogénéité est un élément, mais il y a aussi l'interdisciplinarité, pouvoir permettre aux élèves de donner du sens à ce qu'ils apprennent.
L'interdisciplinarité, c'est deux profs pour deux matières ensemble. Pourquoi faire? On n'y comprend pas grand-chose.
C'est pas forcément. Ça peut être deux profs pour deux matières ensemble, mais c'est surtout comprendre aujourd'hui le collège tel qu'il est fait. L'élève quitte le primaire où il avait un enseignant qui faisait l'interdisciplinarité puisqu'il leur enseignait toutes les choses, où tout d'un coup il se retrouve avec 6, 8 enseignants différents. Il s'y perd, c'est saucissonné. Il n'y a aucun lien entre le cours d'histoire-géo et de français ou entre anglais et SVT. Là justement, ça va permettre de donner du lien. Donc les élèves vont donner plus de sens et un élève qui comprend ce qu'il fait est un élève qui s'investit plus.
Les intellectuels qui se sont mobilisés contre la réforme que Najat Vallaud-Belkacem a appelé les pseudo-intellectuels dénoncent la suppression des classes bilingues, la réduction des heures de latin et de grec et certains choix dans l'enseignement de l'histoire, notamment la place de l'islam respectivement à celle du christianisme. Vous soutenez tout dans ces dispositions-là?
Déjà, ce que je remarque, c'est qu'on fait un gros amalgame. Il y a la réforme du collège, c'est une chose. Il y a la réforme des programmes, et ce n'est pas le ministre qui fait ça, c'est le Conseil supérieur des programmes.
Mais validé par le ministère de l'Éducation.
Oui, mais ce sont pas validé par le ministère de l'Éducation. C'est une commission autonome à part.
Oui, enfin, le ministère de l'Éducation a autorité sur les programmes, tout de même.
Bien sûr qu'elle a autorité sur les programmes. Oui. Mais ce n'est pas elle qui fait les programmes. Elle commande, organise. Et pour que, justement, il y ait plus de sens entre les choses. Ensuite, cette réforme ne se limite pas aux cours de latin, de grec, etc. Si le latin et le grec est si important que ça, il est donc important que tous les élèves puissent en profiter. Alors qu'aujourd'hui, c'est à peine 10%. 10% et il y en a plus des trois quarts qui abandonnent arrivés en seconde.
Mais aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde, le latin et le grec. Tout le monde peut choisir ses options.
Non. Ça c'est ce qu'on dit.
Théoriquement, si.
Théoriquement, voilà. Non, c'est pas du tout. Un élève qui a une petite moyenne, parce que les notes sont encore d'actualité, qui aurait que 8 ou 10 de moyenne, qui dirait « je vais faire du latin », on va dire « écoute, concentre-toi sur l'essentiel et laisse tomber le latin ».
Alors, le grand reproche des adversaires de cette réforme, c'est le nivellement par le bas, en supprimant précisément ou en réduisant les heures de langue antique, le latin et le grec, en supprimant les classes bilingues, qui sont essentiellement des classes français-allemand. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas une volonté de dire « on supprime les filières entre guillemets d'élite » pour ramener tout le monde plus bas, et qu'il n'y ait plus de meilleurs, mais que des moyens, voire des médiocres?
Alors écoutez, si j'arrivais à casser deux croyances, ce serait pas mal. La première, ce serait de croire qu'en permettant à tous les élèves de réussir, on va empêcher les meilleurs élèves de continuer à réussir. C'est totalement faux, ça n'existe pas. C'est pas parce que il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas le bac que le bac vaut plus. Au contraire, tous les élèves devraient avoir le bac. C'est à partir du moment où on conduit quelqu'un au bac, et ça n'en diminue pas les effets. Il y a une croyance en France que de croire s'il y a moins d'élèves qui réussissent, donc ceux qui réussissent ont plus de valeur. C'est faux.
L'idée que les moins bons ralentissent les meilleurs dans une classe, qui est tout de même une vieille idée, pour vous, elle est erronée.
Complètement erronée. Au contraire, c'est bien l'hétérogénéité des classes qui va permettre l'émulsion. Et ce qui est important, et là ça demande une adaptation pédagogique, c'est de faire des groupes de compétences. Un groupe de compétences, si on va mettre ensemble, par exemple, en français, un élève qui a plein d'idées mais qui ne sait pas bien les écrire, un élève qui sait bien écrire mais pas tellement d'idées, un élève qui a plein d'idées et qui sait très bien écrire, un élève qui sait pas... Et ensemble, ils vont s'auto-alimenter, auto-apprendre et il va y avoir une vraie émulsion. Mais ce n'est pas en mettant tous les élèves bons ensemble qu'on leur permet d'être meilleurs.
Ouais, vous dites à la FCPE que les résultats des élèves en France sont beaucoup plus qu'ailleurs liés à leurs origines sociales. Ça, ce sont des données établies très clairement.
Ah, tout à fait, tout à fait. On a quand même trois fois moins d'enfants d'ouvriers qui ont le bac que d'enfants de cadre supérieur.
Oui, mais par rapport à quelle comparaison, des pays européens, à des pays.
Ah ben oui, oui, tout à fait. On est bien sur les pays oui européens, oui. Mais le fait que même sans comparaison par rapport à d'autres pays, le fait de dire qu'il y a trois fois moins d'élèves d'ouvriers qui ont le bac d'élèves de cadre supérieur, c'est tout simplement pas entendable. Comment ça se ferait que des élèves de cadre supérieur auraient un intellect mieux formé? Mais non, ils ont les clés.
Parce que l'environnement familial, le soutien scolaire à la maison est aussi plus développé, tout simplement.
Bah, tout à fait, tout à fait. Mais ça,
c'est une inégalité contre laquelle on peut difficilement lutter, l'environnement familial.
Non, mais l'école doit permettre de donner cet accompagnement. C'est son rôle. Donc, il devrait. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas besoin de devoirs à la maison, bien évidemment, c'est parce que ça doit être à l'école d'accompagner l'élève et lui permettre de travailler comme il le peut.
Alors, les enseignants qui sont opposés à cette réforme craignent en particulier une mise en concurrence entre les disciplines, les enseignants et du coup les établissements en raison de l'autonomie qui est accordée au chef d'établissement. Elle sera de 20%. Ils se trompent, ils ont tort.
L'autonomie telle que prévue dans cette réforme, c'est quelque chose pour permettre de s'adapter réellement aux besoins du terrain. Si dans un collège, l'équipe pédagogique se rend compte que là, les élèves de 5e, le niveau en français n'est pas terrible et qu'il faut mettre une heure de plus de français ou dédoubler les classes en français, c'est pouvoir répondre réellement aux besoins. Donc c'est une autonomie pour permettre à tous les élèves de réussir.
Un petit mot sur cet invraisemblable jargon utilisé par le Conseil supérieur des programmes, notamment dans la définition et l'encadrement des activités sportives. On a tous entendu parler du bassin aquatique profond standardisé pour une piscine, du référentiel bondissant aléatoire pour un ballon de rugby, d'une domination non codifiée pour une bagarre. Tout ça, ça relève de quoi, selon vous ?
Je sais pas trop. C'est très surprenant, en effet. Bon, ça prête à rire. Hein.
Oui, ou à pleurer.
Ou à pleurer, oui, parce que bien évidemment, après, faut décrypter tout ça et puis voir de quoi il s'agit. Mais l'essentiel, quand même, c'est bien le fond, au-delà des mots utilisés, c'est vers quoi on veut amener nos élèves.
Vous croyez à la mobilisation des enseignants aujourd'hui contre la réforme ?
Écoutez, on va voir. Je n'en sais rien du tout. Moi, je rencontre des enseignants sur le terrain. Il y en a qui sont vraiment très opposés, bien souvent avec des arguments faux. Et puis, il y en a d'autres qui disent il faut voir. Aujourd'hui, l'importance... Le débat, il a eu lieu pendant 6 mois. Aujourd'hui, c'est plus l'heure du débat sur cette réforme. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les équipes sur le terrain s'en emparent pour voir comment ils la mettent en œuvre dans les collèges.
Merci, Paul Raoult. Bonne journée.